4 points s'y décrire les rôles des maris et des femmes dans la promotion de la fidélité et de l'amour dans le mariage et la famille. Lecture de la Bible, Malachie 2, 13-16, Proverbes 2, 16-22, Colossiens 3, 12-13, Éphésiens 4, 26-27, Éphésiens 5, 22-6,4, 1 Corinthiens 7, 3-5. Dans le livre The Battle for the Family, George C. Scipione nous rappelle que Dieu a créé une famille. Il n'a pas commencé par une église, un gouvernement, une entreprise ou une organisation bénévole. Il a commencé par une famille, un mari et une femme qui devaient régner sur la création et procréer. Cette progéniture pieuse devait fonder de nouvelles familles et se répandre pour remplir la terre. Toutes les autres organisations sociétales étaient présentes au sein de la famille sous une forme germinale et se sont développées à partir de la famille pour devenir des entités distinctes dotées de leur propre autorité juridictionnelle. Toutefois, ces structures ne peuvent pas remplacer la famille. C'est l'élément de base de Dieu, avec lequel il construit les nations, les gouvernements, les églises, les entreprises commerciales, les institutions caritatives, etc. La centralité de la famille réside dans sa nature et sa fonction unique. Rien ne peut la remplacer. Dans son infinie sagesse, Dieu a créé la famille, ce n'est pas une institution créée par l'homme. Quiconque l'ignore, la contourne ou tente de la reconstruire rejette le plan de Dieu, et ceux qui essaient de la remplacer échouent. Combattre la famille, c'est combattre Dieu lui-même, et la rébellion contre Dieu conduit toujours à la mort, pour les cultures comme pour les individus. Des cultures entières périssent lorsqu'elles ignorent ou altèrent le dessein de Dieu sur la vie. Ouah ! Quelle déclaration ! Tout est dit. Nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la famille, et c'est pourquoi ce résultat est si important. Que signifie « nourrir la fidélité » ? Le dictionnaire de Cambridge définit l'éducation comme « prendre soin, nourrir et protéger quelqu'un ou quelque chose ». Et la fidélité comme « la qualité d'être fidèle à quelqu'un ou à quelque chose ». Le résultat demande donc aux élèves de grandir et de prendre soin de leur engagement inébranlable envers leurs conjoints et leurs familles, ainsi que de leur amour pour eux. Comme il s'agit d'un engagement à vie, il faut y travailler et ne pas le laisser s'étioler. Pour ce faire, nous devons voir ce que la Bible dit à ce sujet. Dans Malachie 2, 13 à 16, Dieu se dresse en témoin légal contre les hommes d'Israël, dit Scipione, et les appelle des briseurs d'alliance, mais dans Proverbes 2, 16 à 22, la femme adultère est décrite comme celle qui abandonne le compagnon de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu. Par conséquent, explique M. Scipione, rompre l'alliance avec un conjoint, c'est aussi rompre l'alliance avec Dieu. En d'autres termes, lorsque vous vous mariez avec quelqu'un, vous concluez une alliance à vie avec cette personne et avec Dieu. Le principe biblique suivant est magnifiquement décrit par Bill Mills dans son livre Delighting in Each Other, The Power of Joy and Satisfaction in Marriage. Notre Père veut que les plaisirs que nous éprouvons dans notre relation avec lui débordent dans nos relations les uns avec les autres. Il invite les maris à se réjouir de leur femme. Que ta source soit bénie, et que tu te réjouisses de la femme de ta jeunesse. Bichémante, serre gracieux, que sa poitrine te rassasie toujours, que son amour te séduise toujours, Proverbes 5,18 à 19. Que signifie faire ces délices de quelqu'un ? Pour un mari, cela signifie que toutes ses affections et tous ses désirs sont nourris et satisfaits par sa relation avec sa femme. En d'autres termes, elle n'a pas de concurrence pour son affection. Nous devrions également suivre attentivement les instructions données aux croyants dans Colossiens 3, 12-13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le prochain principe important se trouve dans Éphésiens 4, 26-27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Mills dit : L'un des engagements les plus importants qu'un couple puisse prendre est de gérer sa colère rapidement et de ne jamais terminer la journée en étant toujours en colère l'un contre l'autre. Vous demandez-vous pourquoi c'est si important ? Quel mal y aura-t-il à laisser quelques désaccords non résolus jusqu'au lendemain ? Cela nous fera du mal, à cause de la nature de la colère et des stratégies de notre ennemi. Pourquoi luttons-nous contre la colère ? Parce que lorsque nous sommes en colère, nous nous sentons bien. Lorsque nous sommes en colère, nous nous rappelons continuellement à quel point nous avons raison et à quel point notre conjoint a tort, et cela nous fait du bien. Mais alors Satan prend notre colère et commence à calomnier nos femmes ou nos maris dans nos esprits et nos cœurs. Il commence à nous mentir sur leur caractère et leur motivation. Très vite, notre colère se transforme en ressentiment et en amertume, et Satan célèbre une nouvelle victoire. Le conseil de Paul vient directement du cœur de Dieu, ne donnez pas au diable un tel point d'appui. Le principe suivant est de se servir les uns les autres dans l'amour. Galates 5:13 dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. » Commentaire de Mills. Lorsque nous nous servons les uns les autres, nous nous apportons mutuellement la vie du Père et nous encourageons nos conjoints à se voir à travers ses yeux. Nous leur rappelons qu'ils ont de la valeur et qu'ils sont dignes de notre vie. Satan subit une défaite, et notre amour pour nos conjoints s'épanouit. Ensuite, les différents membres de la famille doivent remplir les rôles que Dieu leur a attribués. Ces rôles se trouvent dans Éphésiens entre 5h22 et 6h04. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bien que les libéraux tentent résolument de briser ces rôles que Dieu a mis en place pour nous, nous devons rester fidèles à ces directives. Il ne s'agit pas de lignes directrices ou de suggestions, mais d'impératifs auxquels nous devons obéir. Nous avons longuement parlé dans un précédent article de la relation sexuelle entre les époux, mais il est nécessaire ici de rappeler 1 Corinthiens 7, 3-5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Le texte est explicite. Cher animateur, avec les attaques constantes contre le concept de famille biblique, en particulier de la part des médias, des politiciens libéraux et, malheureusement, de certaines églises libérales, nous devons plutôt nous assurer que nos étudiants connaissent et appliquent les directives données par Dieu dans la Bible. Votre évaluation sera basée sur vos observations de leur vie familiale et, s'ils ne sont pas mariés, sur leur capacité à expliquer ces principes.